Slime, saison 2, émission 1, rideau.
Depuis un an, dans Slime, on vous parle de comédie musicale, principalement anglophone. Bien sûr, on a beaucoup mentionné de comédie musicale française, mais on veut en général rester sur notre domaine d'expertise. Pourtant, les comédies musicales à Paris, en ce moment, semblent connaître une nouvelle popularité. Cher Evan Hansen, Chicago, les producteurs, nombre de spectacles adaptés en la langue de Molière se jouent en ce moment à la capitale. Cependant, les créations originales semblent se faire plutôt rares. On a connu Molière, l'opéra urbain, on aura bientôt le retour du Roi Soleil, on a tous les ans, depuis un moment, le retour de Notre-Dame de Paris. Toutes les comédies musicales françaises ont une image assez kitsch auprès du grand public. Une image qui entache un peu leur réputation, alors que si on regarde, bah en vrai, c'est bien. Les comédies musicales en français, on l'avoue, c'est un peu notre angle mort, mais aujourd'hui, on va en apprendre. Vous allez en apprendre plus dans cette nouvelle émission de Slime.
Slime, l'émission qui vous parle de comédies musicales, un vendredi par mois à 19h, sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Slime, l'émission d'où vous ressortirez en disant « Ah, les traductions étaient pas mal, même si je connaissais les chansons originales, j'aurais quand même réussi à rentrer dedans. » Je suis Gauthier et je suis confortablement assis dans la corbeille avec, dans le fauteuil à ma gauche, Ange. Salut Ange.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi mon cher Gauthier?
Bah, ça va très bien, on reprend ça à la rentrée, c'est super. Dans le fauteuil à ma droite, Élise.
Salut.
Et toi, comment vas-tu?
Je vais très bien, très contente d'être là.
Dans le fauteuil derrière moi, il y a une petite nouvelle dans l'équipe qui a upgradé de voix off à chroniqueuse. Salut Ilona.
Salut.
Tout va bien? On t'a pris une place assez confortable?
Oui, c'est plutôt confort, si tu vois ce que je veux dire.
Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Mais dans le fauteuil devant moi, il y a quelqu'un dont la tête me cache un peu la vue, donc je me permets de lui taper sur l'épaule. Et je me rends compte qu'il s'agit de Julien Baldacchino. Salut Julien.
Salut.
Comment ça va?
Bien.
Tu as un podcast sur la comédie musicale française qui s'appelle Les Rois du Monde Estone. Tu as aussi ta propre comédie musicale qui s'appelle Radio Michel, dont tu nous parleras un peu plus tard. J'espère ne pas trop te mettre la pression en te disant que tu en connais un rayon sur la comédie musicale française.
Bah du coup, quand t'as dit qu'on finirait cette émission en ayant appris plein de choses, ça me met un peu la pression. Bon. Ça va être un travail collectif.
Ça va, bien sûr. Tout le monde va mettre un peu de la main à la pâte.
Mais
dans ce
oui.
truc-là, et on va tous s'en sortir. Merci en tout cas d'être là. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale et que si vous avez moins de 26 ans, la place est à tarif réduit. C'est parti. Et on va commencer avec une petite chronique histoire de la part d'Élise.
Tout à fait. Ce mois-ci, on vous parle des comédies musicales françaises et en France dans Slime. Et vous savez qu'ici, elles ont mauvaise réputation. Le mot court que les Français n'aiment simplement pas la comédie musicale. Ici, c'est la France, le théâtre, le cabaret, le cinéma. Et si vous osez proposer à un Français d'aller voir une comédie musicale, il roulera des yeux et soupirera audiblement. Vous venez de commettre un affront terrible et vous êtes maintenant classé dans la catégorie énorme nerd. Parce qu'ici, la comédie musicale, c'est une niche destinée à une poignée de fanatiques. Lâchez le morceau. C'est pas notre culture. C'est vraiment un truc d'américain, d'anglo-saxon, à la rigueur. Mais c'est pas pour nous. Ah, vous l'avez tous entendu, ça, hein? Eh bien, aujourd'hui, je vous le dis. On vous a menti. N'ayez pas honte, oh mon peuple, d'aimer les spectacles musicaux, car ils ne sont pas apparus d'un coup d'un seul tel qu'on les connaît. C'est un genre riche, rempli d'ingrédients culturels qui ont pris racine chez nous. Ah, eh oui! Avant la comédie musicale telle qu'on l'entend aujourd'hui, il y avait tous les spectacles musicaux qui nichaient en Europe. Avec pour chef de troupe, évidemment, l'opéra, qui était là il y a très longtemps, hein, et qui a été extrêmement populaire. C'est un genre qui est né en Italie, qui aura rapidement gagné la France vers le XVIIe siècle. Et à l'époque déjà, on commence à nous raconter des histoires en chantant, avec des musiciens, des danseurs même parfois. L'essence se construit. La particularité qu'on trouvera à l'opéra, c'est la composition d'un livret, une vraie pièce de théâtre qui s'entremêle avec la musique, accompagnée de son orchestre. En avançant dans le temps, on rencontrera le vaudeville avec des enchaînements de tableaux, où on joue, on danse, très joyeux, on chante, on y ajoute parfois du cirque et autres joyeusetés. Ici, c'est pas une vraie histoire qui lit le tout, mais plutôt des concepts et des thématiques. Et nous sommes à présent juste avant le XXe siècle avec ceci. Et il y a un essor de tout ce genre de spectacle dans les grandes villes d'Europe, comme Paris et Londres, et arrive ainsi le Music Hall. Hall, H-A-L-L. Et oui, même phonétiquement, on arrive à peu près dans le vif du sujet. Avec une ambiance beaucoup plus luxueuse, on commence à avoir des spectacles en grand, avec des revues, des danseuses à gogo, des chanteuses, un orchestre, un dîner, et surtout des salles immenses et emblématiques qui naissent. Si je vous dis genre, au pif, le Moulin Rouge, le Lido, le Casino de Paris, l'Olympia, tant de noms qui nous caressent les oreilles et qui pour certains accueillent aujourd'hui des comédies musicales, successeurs du genre qui a vu naître tous ces lieux mythiques. Ce qui différenciera le musical de ses cousins, le cabaret le vaudeville, c'est la grandeur des lieux et son ambition. Vous avez bien entendu les noms que j'ai cités à l'instant. Même si vous n'avez jamais mis les pieds là-bas, toutes ces salles ont une aura presque mythique autour d'elles. Mais si on veut vraiment parler français, il est impossible de ne pas mettre en lumière l'opérette, qui pour le coup vient sans aucun doute de chez nous. Elle est apparue du coup au milieu du 19e, et l'opérette, c'est un peu la cousine folle de l'opéra. Les chanteurs utilisent toujours la technique lyrique, mais ici tout est beaucoup plus léger, hein, que ce soit les sujets abordés ou la musique qui devient vraiment beaucoup moins savante. L'opéra tire son épingle du jeu en tournant en dérision la bourgeoisie, et en plus ils adorent ça, hein. Ils sont très fans. Les bourgeois parisiens en redemandent, et c'est un genre très vaste dont l'étendard sera porté par Offenbach, qui aura composé des pièces telles que La Belle Hélène et La Vie parisienne. Très très français. Hein. Ainsi, toute l'Europe sort des sentiers battus et réinvente son spectacle vivant en y intégrant la musique comme part entière de son paysage et non seulement comme entr'acte ou fond sonore. Et puis bon, on y vient. Arrive le XXe siècle et les Européens migrent tous en masse vers l'Amérique à la recherche d'une vie meilleure, ce genre de choses apparemment. Bon. Et ils emmènent chacun avec eux leurs bagages culturels et musicaux. Les États-Unis deviennent alors un véritable melting pot de genres dont New York sera l'épicentre. Les spectacles se jouent d'abord dans multiples langues avant de se recouper peu à peu vers l'anglais avec le temps. Les genres se mélangent. On pioche les livrets aux opéras, l'extravagance aux musicals, l'humour à l'opérette, et on en fait une grande soupe qui tombera dans les mains de compositeurs et librettistes pionniers du concept de la comédie musicale actuelle, comme Hammerstein ou Kern. Et tel l'assaisonnement final sur ce fantastique entremets, le jazz viendra y ajouter son grain de sel. Et ainsi, nous entrerons dans la première grande ère de ce qu'on appelle la comédie musicale. Et puis bon, l'histoire suivra son cours, mais ça c'est un cours que je vous ferai plus tard. Des années 20 à aujourd'hui, le genre prend racine et se développe de l'autre côté du globe en traversant bien des périodes charnières qui nous amènent à maintenant. Alors oui, bon, les Français, on s'est parfois laissé tenter par le spectacle musical, on a bien tenté l'opéra rock, mais il faut admettre que le succès n'était jamais systématique. Comme si nous n'avions pas trouvé la recette. Aujourd'hui, on commence à faire les choses à l'américaine, mais n'oublions pas que c'est les Américains qui ont commencé par faire les choses à l'européenne. Donc finalement, la comédie musicale qui commence à reprendre des couleurs en France, c'est un peu le retour du boomerang vaudeville opérette qu'on a gracieusement lancé au 19e. Et j'aimerais que tous ensemble, on fasse la paix avec le genre, qu'on attrape ce joli boomerang qui nous revient en pleine face et qui a traversé bien des choses, et qu'on le regarde avec fierté. Je me demande souvent comment on est arrivé à avoir une image si mauvaise de la comédie musicale ici. Avoir ça comme quelque chose d'enfantin, de niais, même de gênant. Alors qu'au fond, c'est un spectacle comme un autre. Combien de gens disent ne pas aimer la comédie musicale sans même lui avoir laissé une chance ? J'ai bien pensé à cette barrière de la langue. Beaucoup des plus gros spectacles sont en anglais, sans vraiment d'adaptation francophone. Mais dire qu'on n'a aucun matériel sur lequel se baser, c'est faux. Peut-être que depuis l'ère glorieuse de Starmania, aucun succès n'a été assez retentissant pour vraiment figer la comédie musicale dans notre paysage culturel, si bien qu'elle n'a pas su atteindre à nouveau les yeux du grand public. Mais là, je peux pas m'empêcher de penser que c'est aussi une question de pudeur. Parce qu'on nous offre des émotions crues, sur un plateau, de la douleur à la joie, très explicitement et en face à face. Mais le français, c'est une langue de détour, de poésie. Alors parfois, je pense que ça réside un peu là-dedans, le « non, la comédie musicale, c'est vraiment un peu trop pour moi ». En tout cas, moi j'ai envie de croire qu'on va y revenir bientôt, et je dis bien « revenir » parce que, qu'on le veuille ou non, la comédie musicale, c'est aussi un peu notre culture.
Merci Élise pour ta chronique. Julien, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on a cette image du coup de gênance de la comédie musicale ?
Alors, ça c'est une bonne question. Est-ce que je pense que c'est en deux temps en fait. C'est-à-dire que il y a avant qu'on commence à faire des comédies musicales et puis il y a quand on a commencé à en faire. Le avant c'était effectivement de se dire, et ça on entend 2000 interviews de Michel Berger quand il fait Starmania où il dit tout le monde dit que les Français n'aiment pas la comédie musicale et donc il y avait ce truc de effectivement comme tu disais c'est pas pour nous. C'est un genre c'est américain, c'est autre chose. L'opérette s'était un peu cassé la figure parce que c'était un genre qui était très très classico-lyrique, donc voilà, il y avait cet effritement là et ça devenait ringard. Starmania c'est un peu une exception au moment où ça arrive, même si il y a des spectacles avant, il y a des spectacles après, il y a des trucs qui marchent et on s'en souvient pas. Il y a quand même Les Misérables hein, qui avant de partir aux États-Unis est français et marche un peu en France. Et puis ensuite, il y a le moment où tout le monde se lance là-dedans, mais où en fait, c'est un modèle très différent du modèle américain. C'est un objet marketing aussi, et peut-être même d'abord. Et donc, quand on a les rois du monde qui déferlent et qui est le tube qui passe en boucle sur TF1 à toute heure du jour ou de la nuit, qu'on a les 10 commandements en même temps, qu'on a Notre-Dame en même temps, tout ce truc qui arrive en même temps, Ben on va se dire non, c'est pas du théâtre, c'est pas du spectacle, c'est des disques qui ont fait pour vendre aux jeunes, et donc il y a un truc un peu de on se pince le nez et on regarde ça avec condescendance, alors que, et c'est ce que tu disais aussi, c'est du spectacle, c'est un certain genre de spectacle, mais c'est du spectacle. Donc je pense qu'il y a cette espèce de gros amalgame de avant on disait que c'était pas pour nous et puis après on dit c'est toujours pas pour nous parce que c'est pas assez bien.
C'est vrai que ce que tu dis par rapport, oui, c'est cette image de c'est fait pour les jeunes et tout. C'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui disaient ouais, dans mon adolescence, j'écoutais Roméo et Juliette, c'était trop bien, j'étais fan et tout. Comment ça se fait qu'on s'en soit pas sorti de ça?
Bah parce que il y a alors ça c'est que ma théorie, mais il y a une espèce d'âge d'or de la comédie musicale française qui va de Notre-Dame à globalement Mozart, l'opéra rock, et quand on prend les spectacles qui marchent à ce moment-là, bah c'est Notre-Dame, Roméo et Juliette, les Dix Commandements, Le Roi Soleil, Mozart, l'opéra rock, et allez, si on veut vraiment être gentil, 1789, Les Amants de la Bastille. ce qui marche, c'est quand même des trucs qui sont effectivement très très cadré, très formaté pop, avec très peu de dialogue au début, de plus en plus à mesure qu'on avance, mais ça reste des spectacles qui sont des spectacles de chansons. Et les chansons, on les fait pour les mettre sur des disques et pour les vendre et pour faire de la promo. Et donc, qui est la cible numéro un de cette promo? C'est les jeunes, c'est les ados. Et bah oui, moi, quand Roméo et Juliette est sorti, j'avais 10 ans, j'étais en plein dans la cible. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la marmite avec Starmania avant, mais je suis resté dans la marmite avec ces spectacles-là. Donc, je pense qu'il y a quand même une petite patte sur ces spectacles-là, vraiment les spectacles à la française, qui est très nostalgique. Et la preuve, c'est qu'on refait Le Roi Soleil, on refait les Dix Commandements, ouais, on refait tout ça.
Et Élise, tu as mentionné le terme opéra rock. L'opéra rock, j'ai l'impression que c'est un gros truc et que les comédies musicales françaises ne sont pas des comédies musicales, sont des opéras rock. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence entre les deux?
Oui, mais alors là, je me lance dans un truc. Si ça se trouve, je vais me prendre des petites tomates en disant des bêtises. L'opéra rock, c'est pas français à la base. L'opéra rock, c'est pas forcément un spectacle. C'est d'abord un concept album. Par exemple, Tommy des Who, c'est un opéra rock. C'est un disque avant tout. Ça a été un film. Je crois qu'il y a eu un spectacle, mais je suis même pas sûr. Donc c'est ça en fait, c'est un truc qui se déroule, il y a des chansons qui s'enchaînent et qui racontent une histoire. De là, on dérive la Révolution française en 74, qui est un rock opéra. Mais sur le même principe, il n'y a pas de dialogue, c'est des chansons qui s'enchaînent. Et puis il y a Starmania. Et en fait, bah, vu que Starmania a cartonné et que ça a posé des jalons, bah depuis on dit on fait des opéras rock. Mais ça n'est ni plus ni moins que des spectacles musicaux. On peut donner 25 000 noms. Il y a un chercheur qui appelle ça des concerts dramatiques. Et je trouve ça pas inintéressant, non, parce que c'est vraiment l'idée de... On enchaîne des chansons, mais ça raconte une histoire et il y a une dramaturgie.
Et il n'y a pas de théâtre.
Et il y a, au début, il n'y a pas du tout de théâtre. Ouais. Et puis là, il y en a quand même de plus en plus.
Mais on garde quand même ce terme opéra rock par tradition. C'est ça.
Oui, parce qu'on aime bien se dire qu'on ne fait pas exactement comme les autres.
Exactement. Et tu as parlé d'une espèce de boom qu'il y a eu avec Notre-Dame de Paris jusqu'à voilà, Les Amants de la Bastille, ou plus communément Mozart, l'opéra rock. Comment ça se fait que depuis, il n'y a pas eu de succès aussi retentissant qu'un gros Mozart, l'opéra rock, un Roméo et Juliette?
Je pense que ça dépend... Alors. Disons que c'est un modèle qui change, parce que c'est ce que tu disais aussi au tout début de l'émission, il y a des spectacles qu'il n'y avait pas avant et qui arrivent et qui marchent. Un Roi Lion à Mogador, c'est une comédie musicale qui en plus se met un peu dans un modèle à l'américaine d'un spectacle en résidence et qui bouge pas.
C'est vraiment la seule exception qu'on se dit, même dans l'émission, que le Roi Lion, c'est vraiment la seule comédie musicale qui cartonne en France depuis des années.
Tient
bien, quoi.
Parce que c'est basé sur un film Disney aussi qui a cartonné. Et en fait, je pense qu'il y a un changement de modèle économique où justement la promo qui reposait sur la télé, les passages en radio, les passages en plateau, ça se réduit. Pour faire connaître un titre, il y a d'autres voies que tout le monde ne maîtrise pas. Et comme les comédies musicales françaises sont basées sur les chansons, si on n'arrive pas à faire des tubes avant, c'est compliqué d'avoir un spectacle où on se dit on va louer le Palais des Sports pendant 2 mois et personne ne connaît une seule chanson. C'est ce qui s'est passé avec Molière. Mmh. Molière, quand ça a commencé au Palais des Sports, c'était aux 3/4 vide. Il faut franchement faire un sacré pari pour se dire personne ne connaît mon spectacle, personne ne connaît le moindre interprète ou 2-3 qui viennent de The Voice et des radios crochets, des télécrochets. C'est peut-être ça le changement aussi. Personne ne connaît les chansons. On va tout miser sur une histoire, Molière, sur un concept, l'opéra urbain qui n'a pas marché parce qu'ils ont renommé le spectacle. Et on attend. Et il se trouve que Molière, ça a marché. C'est fou, la salle est passée de un tiers rempli à plein à craquer en 1 mois. Donc c'est un bon exemple d'une bonne utilisation de ce changement de modèle où on peut plus reposer sur les médias traditionnels pour faire la promo. Il faut basculer sur un truc un peu à l'américaine où on va teaser un spectacle dont les gens ne connaissent rien.
Puis je pense qu'il y a eu avec Molière, c'est que moi, par exemple, j'ai vu beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Mmh. Sur TikTok, il y avait énormément de gens dans le public qui filmaient quand il y avait tous les moments à la fin où ils font les backflips, les trucs de fou. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça a piqué la curiosité de pas mal de personnes. Est-ce que c'est peut-être le nouveau modèle de communication
Ils se sont super bien servis de ça parce que alors, c'était très drôle. En même temps, il y avait Molière qui laissait vraiment les robinets ultra ouverts sur les réseaux sociaux. On voyait tout. Et Starmania, la moindre vidéo qui sortait sur les réseaux sociaux, elle était strikée en 2 secondes. Et Molière a tourné un moment, Starmania a tourné un peu moins longtemps. Ça fait aussi partie, je pense, du truc, c'est il faut entretenir cette envie. Et là, on le voit, alors je ne prends pas un exemple français, mais Paddington qui a commencé il y a 1 semaine, il y a une hype gigantesque parce que le petit Paddington, il est beaucoup trop mignon, qui est alimenté par les réseaux, y compris au-delà des gens qui aiment la comédie musicale.
Oui.
Ouais. C'est un peu le fait d'aller chercher un autre public qui ne connaît pas. Dans la globalité, même adapter des films, c'est très commun dans la comédie musicale anglophone.
Ouais, et puis quand t'es américain ou anglais, que tu vas à Londres, ou même quand t'es touriste et que tu vas à Londres, tu fais une comédie musicale. Ça fait partie des spécialités locales. En France, c'est pas le cas. Ouais. Et en France, on les fait tourner, nos spectacles, ils sont pas en résidence. Là, il y a une tentative qui est intéressante, c'est le Lido qui a mis Les Demoiselles de Rochefort sans tourner. Ça reste à l'affiche tant que ça marche. On va voir combien de temps ça marche.
Merci pour ces réponses. Ange, ça va être à toi.
Eh bien, vous m'avez amorcé, vous m'avez chauffé la place, je pourrais dire. Alors, si vous suivez Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris, vous savez que j'ai un sujet de prédilection parmi tout ce dont j'ai pu vous parler jusqu'à présent. Tumblr ? Peut-être. Sting ? Sûrement. Mes amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique nostalgie. Aujourd'hui, nous allons parler de ces albums que vous avez peut-être eu entre vos mains, dans votre chambre, que vous avez écouté sur votre lecteur CD étant enfant, sans trop savoir de quoi il s'agissait, en vous balançant frénétiquement en rythme, ou bien parce que ça faisait une super bande son pour jouer aux poupées. Je vous raconte une expérience tout à fait personnelle, là. J'ai ce souvenir, très spécifique, hein, d'avoir tenu l'album de Dracula, L'amour plus fort que la mort, aux alentours de 2011, ce qui signifie que l'album a été obtenu peu de temps après sa sortie. À cette époque, je n'avais pas d'argent de poche, et en plus j'habitais à l'étranger, donc les sorties musicales étaient décalées par rapport à la France métropolitaine. Je vous raconte ma vie là, vous pouvez vous servir un petit thé en attendant, n'hésitez pas, voilà, faites votre vie. Et en plus de ça, on peut pas dire que mes parents soient vraiment des fans de comédie musicale. Donc je vous pose la question, comment on explique que Ange, 11 ans, s'époumonne sur... Encore de Julien Lecaux. Impression un petit peu. Eh bien, c'est tout le but, que dis-je. C'est toute la démarche de cette chronique. Comment ces albums se sont glissés chez nous? Comment on se retrouve à connaître les chansons de comédie musicale française dites cultes, sans jamais les avoir vues en scène? Pourquoi ces chansons ne représentent-elles pas un genre à part et à la place sont simplement considérées comme faisant partie du paysage de la variété française? Je ne dis pas que c'est bien ou mal, mais si vous écoutez vos chansons de Broadway préférées sur des applications de musique quelconques, vous trouverez très certainement des centaines de playlists dédiées au genre. Or en France, je crois que la limite est assez floue. Alors pour vous, j'ai enfilé ma casquette d'enquêtrice et écumé toutes les archives à ma disposition. Wikipédia. Il s'avère que quand on va sur la page comédie musicale française, vous reconnaîtrez que je ne me suis pas trop foulée sur celle-là, on remarque qu'une bonne partie des spectacles est d'abord sortie sous forme d'album, et on en parlait tout à l'heure, donc on se sait. Je ne parle pas de jukebox musical, bien sûr, où ce sont directement des chansons existantes qui servent de base à la création d'un spectacle. Non, non, non. Je parle bien de spectacles originaux avec des chansons spécialement créées pour l'occasion, mais qui sont d'abord sorties sous forme d'album, un peu comme un teaser, en somme. C'est le cas de Au hasard, Starmania, Émilie Joly, Les Misérables, Notre-Dame de Paris, la liste est longue. Et c'est un peu ce qui explique que pourquoi, quand vous évoquez Belle, la chanson Belle,
Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé pour elle.
Il le fait mieux que moi. Hein. Les gens risquent de vous répondre « Ah oui, j'adore Garou !» Ou bien encore, le fait que si vous parlez de comédie musicale et mentionné « Quand on arrive en ville », merci. On puisse vous dire « Ah, je pensais qu'on parlait de comédie musicale, mais pas de variété française. » Cette histoire m'est vraiment arrivée, by the way. C'est une vraie histoire. C'est un peu triste. Je pense que ça contribue largement au fait que la comédie musicale ne soit pas si démocratisée en France, qu'elle représente encore un art de niche, parce que les chansons de comédie musicale sont déjà implantées. Elles sont en soi des piliers de la variété française. Prenons un exemple, ce sera peut-être plus parlant. Si je vous demande de me citer une chanson de, je sais pas, Daniel Balavoine, il y a fort à parier que vous mentionnerez une chanson présente dans Starmania. Alors que vous connaissez sans doute plus Balavoine comme un chanteur aguerri, que comme un artiste de comédie musicale.
J'aurais voulu
Merci.
Être un artiste.
D'ailleurs, Starmania est à ma connaissance le seul projet de comédie musicale auquel il a pu prendre part. Vous pouvez me corriger si je me trompe, hein, mais je crois que c'est ça. Mais c'est... on en parlera. Mais c'est ça qui va le faire réellement connaître du grand public. Et aujourd'hui, on retient bien évidemment les chansons... On connaît, on entend. Ça nous parle, c'est dans notre paysage. Mais étrangement, beaucoup moins le spectacle qui en découle. Vous allez me dire, Ange, c'est faux, voyons, tout le monde connaît Starmania. Mais détrompez-vous, rappelez-vous, nous sommes un microcosme, l'amicale des amateurs de comédie musicale, abrégée en AACM. Une confrérie soudée, mais qui ne représente qu'une infime portion des vrais gens, de la vraie vie. J'exagère, hein, évidemment, mais pas tant que ça. Pour revenir au sujet principal, la France est assez spécialiste de ce truc-là, de prendre des chanteurs déjà expérimentés pour jouer dans des spectacles plutôt que des artistes spécialisés dans le domaine, contrairement aux productions Broadway ou West End. On pourra contre-argumenter en me disant « Regarde, Ariana Grande est bien dans Wicked aujourd'hui !» Mais dois-je vous rappeler d'où elle vient? Où est-ce qu'elle a fait ses armes? Dois-je vous le rappeler?
Rappelez-nous.
Vous avez la réponse? Eh bien non, pas à Nickelodeon, messieurs dames! À Broadway, elle avait 15 ans quand elle a joué dans sa première comédie musicale. À Broadway, argument rejeté. Je retourne maintenant à nos bons vieux artistes français. On peut reparler de Garou dans Notre-Dame de Paris, Emmanuel Moir et Christophe Maé dans Le Roi Soleil, L'âme dans Cindy 2000, celle-là, elle est pour toi, Élise.
Merci.
Julien Clerc et Henri Salvador dans Émilie Jolie, ou même tout récemment, Scheim dans Chicago. Et pour parler un petit peu de cette dernière, toute la communication a été faite autour de sa présence. Au point où quand vous allez sur Tic et Tac pour acheter vos places, le spectacle se nomme littéralement Chicago avec Scheim au Casino de Paris. Alors écoutez-moi bien, j'adore Scheim et jamais je ne me permettrai de la trash talk. Hop, je perds mon texte, excusez-moi. D'ailleurs, extrait de Scheim. Voilà, on apprécie un petit peu, on est dans la nostalgie, tout ça. Mais on parle de Chicago, un spectacle qui a été monté maintes et maintes fois en France, au point où Foxa Jazz, version française de All That Jazz, fait partie du répertoire de N'oubliez pas les paroles. Chicago quand même, voilà. Mais c'est comme ça, en France on est chauvin, on a besoin de montrer à quel point nos artistes ont du talent. Ça crée un petit monde assez ferme et qu'il est difficile de rejoindre. Comme si pour faire de la comédie musicale, il fallait d'abord avoir fait ses preuves. Mais c'est peut-être aussi un moyen de rendre la chose plus accessible. Nous n'avons pas de grande avenue remplie de théâtres diffusant exclusivement des comédies musicales toute l'année. C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre paysage culturel. Et pourtant, tous les ans, sortent de nouvelles productions françaises, qu'elles soient adaptées ou originales. La comédie musicale est toujours présente, mais différemment. On l'écoute plus qu'on la regarde. Alors je vous propose, ayons collectivement une pensée pour Ange, 11 ans, découvrant sans le savoir le monde de la comédie musicale avec son CD de Dracula, L'amour plus fort que la mort, qui est mystérieusement apparu dans sa chambre un beau matin. Vous qui m'écoutez, être dans cette ironie dramatique, car vous connaissez déjà la fin de l'histoire. Mais elle, qui chante de tout son corps et de tout son cœur, les paroles écrites par Jennifer Ayash, chanteuse de Superbus, hein, tout de même. Un petit peu de respect. On profite, hein, nostalgie encore une fois. Elle ne sait pas encore que dans presque 15 ans, une bonne partie de sa vie tournera autour de ça. C'est tout pour moi.
Merci beaucoup Ange pour cette chronique nostalgique et on voit que tu as eu une enfance très musicale.
On est là.
C'est beau ce que tu dis.
Julien, on t'a vu faire un signe pour me dire que Balavoine était dans d'autres comédies musicales que Starmania.
Ouais, mais alors là, je vais vraiment faire le nerd.
Okay. On est là pour ça.
Il a été choriste dans La Révolution Française.
Oh, wow.
Starmania.
Alors celle-là, voilà, je l'avais pas.
Dans les années 70.
Ok.
Un puits de connaissances.
Bah, franchement, c'est pour ça qu'on t'a invité. Et ben, merci Ange, et on va passer tout de suite à ma chronique. Moi, je voudrais faire un zoom sur la comédie musicale, je pense, la plus connue, et en vrai, une des plus anciennes, parce que si on remonte dans le temps, le succès le plus vieux et en même temps actuel, c'est Starmania. Starmania, c'est la comédie musicale française la plus culte. Écrite par Michel Berger et Luc Plamondon, elle est si connue que ses chansons sont devenues iconiques au point qu'elles ont pour beaucoup aujourd'hui complètement décorrélées de l'œuvre originale. La première fois que j'ai vu Starmania il y a 3 ans, je suis tombé de mon siège en découvrant que c'était là l'origine de J'aurais voulu être un artiste, que Ziggy n'était pas une chanson de Céline Dion et que SOS d'un terrain en détresse n'était pas une chanson de Grégory Le Marchal. Moi, personnellement, je l'ai vu 2 fois, dans la dernière version de 2022, mise en scène par Thomas Joly à la scène musicale, et c'était, si je puis me permettre l'expression, une dinguerie. La mise en scène, les chansons, et surtout ce qui m'a marqué, les lumières. La première fois, j'étais resté très sceptique. J'avais découvert que les chansons que mes parents chantaient en soirée quand j'étais petit, ça venait d'une comédie musicale, passion que je venais de me découvrir un an auparavant. Il fallait un petit peu de temps pour digérer. Quand j'y suis retourné un an plus tard, après avoir digéré, je me suis un peu plus laissé emporter. Et c'était vraiment très bien, très impressionnant. Une impression de gigantisme et de se faire vraiment tabasser pendant les gros numéros, etc. Bref, tout ce que j'aime dans la comédie musicale. Mais Starmania, qu'est-ce que ça raconte ? Ça se passe dans un futur qui semble très proche, dans la ville de Monopolis, une ville dystopique de l'Occident, un état unique mondial. On assiste à une campagne pour des élections où vous s'opposez 0 janvier, un candidat très businessman, très extrémiste, il veut construire des immeubles partout, et en plus c'est l'homme le plus riche du monde, en gros c'est franchement Elon Musk. Et le gourou marabout, l'opposé complet, qui est très écolo, très la nature, il veut construire des arbres partout. En gros c'est José Bové. C'est José Bové. On va suivre aussi un groupe révolutionnaire, les Étoiles Noires, mené par les personnages de Sadia, Crystal et Johnny Roquefort. Et j'en dis pas plus, mais Starmania, c'est vraiment une histoire très lourde. Il n'y a pas un seul personnage là-dedans qui est heureux de vivre. Les pauvres sont tristes, les moins pauvres sont tristes, même les riches sont tristes. Starmania, c'est vraiment un spectacle à voir si on va quand même au moins un peu bien, parce qu'en sortant, c'est difficile. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé en quittant la salle, c'est que Starmania, c'était visionnaire. Si on ne sait pas que ça a été écrit dans les années 70, ça passe complètement pour quelque chose de moderne. Starmania, ça parle d'homosexualité, de transidentité, à une époque où c'était bien moins discuté qu'aujourd'hui. Ça parle d'ultra-capitalisme, de montée du fascisme, et finalement, un peu à la manière des Simpsons, ça a prédit l'avenir. Starmania, c'est un spectacle qui a commencé en 79 et qui a eu plein de versions différentes au fil des années, avec à chaque fois des changements, des choses ajoutées, des choses retirées. Et je voudrais mettre ça en parallèle avec les comédies musicales de Broadway ou du West End. J'ai un peu l'impression que ce droit de changer là-bas, il n'existe pas trop, voire pas du tout. Qu'une fois qu'un spectacle est mis en place et a commencé à y être joué, il est un peu figé, et à part des variations plus ou moins grandes dans l'interprétation des différentes comédiennes et comédiens, bah le cadre reste assez bloqué. Pour Starmania, ça s'est joué un peu, puis plus, puis encore un peu, puis plus, et ça jusqu'à aujourd'hui où la version de 2022 n'est plus du tout jouée. C'est une approche complètement différente de celle qu'on connaît des comédies musicales anglophones qui, pour les plus rentables, restent des années et des années en ayant seulement des changements de casting, etc. Et là, j'ai parlé de Starmania, mais 20 ans plus tard, on a eu un énorme boom de comédies musicales françaises considérées comme cultes à la fin des années 90 et pendant les années 2000. Je vous dis Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, Les Amants de la Bastille, Le Roi Soleil, Les Dix Commandements, Mozart l'Opéra Rock, Molière l'Opéra Rubin, Thibault l'Opéra Caustique, Michel l'Opéra Sympa, Christophe l'Opéra Super Cool. Bon, sur la fin, il y avait un peu moins d'inspiration pour la vie. On remarque une tendance d'ailleurs, c'est que ces comédies musicales-là, qui ont eu un succès, ont un thème historique. L'histoire de France avec Les Amants de la Bastille, l'histoire de la musique avec Mozart l'Opéra Rock, l'histoire de la littérature avec Notre-Dame de Paris, etc. Sauf Starmania, qui pour le coup est la seule qui se passe dans le futur. Et je remarque ça, mais les plus gros succès anglophones, c'est également historique. Hamilton, Six, des périodes plus récentes avec Come From Away. Et sinon, ce sont des adaptations de films et de livres. Et donc pour terminer cette chronique, je pense que globalement dans la comédie musicale, on a besoin de plus de choses qui sont originales. comme Starmania finalement, qui serait avant-gardiste dans un contexte futuriste et même moderne. Hein. Peut-être imaginons des mondes originaux qui sortent des adaptations littéraires ou du cinéma qu'on voit dans la plupart du paysage de la comédie musicale aujourd'hui, ça nous ferait peut-être du bien.
Réel.
Et donc, comment on peut expliquer ce fait que chaque comédie musicale, c'est un thème très historique finalement, quand on regarde tout ça?
C'est pour moi la question.
C'est pour n'importe qui. Je dirais que je t'ai regardé, mais ça peut être tout le monde.
C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est un truc qui est vrai en France et qui est vrai sur les comédies musicales anglo-saxonnes. Je pense que c'est plus facile de ramener du public quand tu racontes une histoire que les gens connaissent. Le contre-exemple absolu, c'est Hamilton, où Lin-Manuel Miranda dit « Je vais faire une comédie musicale sur le mec le moins connu ». De l'histoire des États-Unis. Donc c'est un pari et les gens ils sont pas allés pour l'histoire des États-Unis. Mais sinon c'est vrai que de prendre des grandes œuvres déjà connues, que ce soit d'histoire ou de fiction, tu te dis au moins les gens ils vont savoir de quoi on parle. Donc tu pars d'un truc qui marche. C'est très très risqué et il y a très peu. Alors dans les grandes comédies musicales, parce que là pour l'instant on oublie le paysage de toutes les dizaines de comédies musicales amateurs ou professionnelles qui se montrent, qui sont des spectacles originaux et qui souvent racontent des histoires originales. Cela, on n'en a pas encore parlé, mais dans les grands spectacles, faire une histoire originale avec des chansons originales, avec des artistes que le grand public ne connaît pas forcément, on se tire quand même pas mal de balles dans le pied pour ramener du public. Donc il faut un petit peu aller chercher le public d'une manière ou d'une autre.
On va continuer l'ambiance Starmania en écoutant tout bonnement un extrait de Starmania avec Besoin d'amour.
Besoin d'amour. Comme la terre a besoin du soleil. Besoin d'amour.
C'était Besoin d'amour, interprété par France Gall dans Starmania sur Radio Campus Paris.
Slime. Un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Julien Baldacchino. Comment ça va ?
Très bien, je me régale. C'est un super moment.
Bah, c'est super, c'est réciproque. On a parlé beaucoup de comparaisons entre Paris, New York, Broadway. Là-bas, on a le West End, c'est des grandes institutions avec des noms qui claquent un peu, Broadway, qui comportent des pièces de théâtre, mais notamment des comédies musicales. À Paris, on n'a pas ça.
On a le West fin.
On a le West quoi ?
Non, pas du tout. C'est la traduction littérale.
La fin de l'Ouest.
Voilà, la fin de l'Ouest. Comment ça se fait qu'on n'ait pas de quartier ou de concept pour les comédies musicales à Paris ?
Bah, on a des quartiers de théâtre. Il y a le quartier de la Gaîté, il y a le quartier des Grands Boulevards. Mais comme il n'y a pas de milieu de la comédie musicale, finalement, elle se développe dans des lieux qui ne sont pas dans ces quartiers-là. Il y a Bobino dans le quartier de la Gaîté, globalement, à Paris. Et puis, il y a quelques théâtres sur les Grands Boulevards de type le Comédia, le Théâtre Libre, qui font de la comédie musicale. Mais sinon, c'est des formats qui se développent au Palais des Congrès, au Zénith, maintenant à la scène musicale. Donc en fait, c'est les grands spectacles, ils sont en périphérie de Paris ou au Palais des Sports. Les spectacles de format théâtre, ils sont plus récents. Là, ça commence à se faire avec le Châtelet, avec Mogador, mais il y a moins cette culture-là dans un quartier des théâtres.
Et oui, vous avez dit un truc ?
Oui, c'est un truc que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas vraiment dans la comédie musicale en France, c'est cette culture du compositeur, comme ce qu'on va avoir sur... ailleurs dans le monde, c'est-à-dire
Andrew Lloyd Webber, des trucs comme ça. Désolé de dire ce truc-là.
Mon cœur se brise. Mais par exemple, quand Sondheim est décédé, toutes les lumières à Broadway ont été éteintes ce soir-là, alors que nous, on s'en fiche, quoi. Rien à faire. Je me demande si c'est... Pourquoi est-ce qu'il n'y a juste pas eu vraiment de pionniers du genre en France qui ont permis d'avoir cette stature-là ? Je ne sais pas.
Bah, c'est des gens qui font par ailleurs des chansons. En fait, les compositeurs connus de comédie musicale, ça va être Michel Berger, ça va être Richard Cochiante, Pascal Obispo. Donc d'ailleurs, c'est que des hommes. C'est quand même un milieu ultra masculin en France, que ce soit auteur, compositeur, producteur, il y a très peu de femmes. C'est un milieu qui est devenu plus un milieu de producteurs qu'un milieu d'auteurs-compositeurs. Maintenant, on connaît Dov Atia, on connaît Roberto Surleo qui a fait quelques spectacles, mais on connaît pas les créateurs, parce qu'ils font bosser des poules de créateurs et de créatrices, pour le coup, mais qui sont dans des poules et dont on retient pas forcément les noms, voire qui se cachent entre guillemets, c'est-à-dire que Cher Evan Hansen, c'est Oshi qui a fait l'adaptation des chansons. C'est sur l'affiche, mais elle a pas fait de promo, alors qu'elle pourrait, par sa notoriété, porter le spectacle. Ben, c'est pas le cas.
Et tout de suite, on va passer à la chronique d'Ilona, finalement.
Oh là,
est-ce que
là,
tu es prête pour ta première dans cette institution, on va dire, avec Slime ?
Je suis un petit peu émue, mais je cache mes larmes.
Et Ilona, c'est à toi.
Bon, pour cette première chronique de mon existence sur Slime, l'émission qui vous parle de comédie musicale, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
Waouh.
J'ai décidé de parler tradition, parce que dans ce premier temps, on va parler non pas de France, mes amis, mais de Gaulle. Et oui, on va faire un zoom sur C'est du délire, la comédie musicale familiale du parc Astérix, autoproclamée première comédie musicale gauloise. Elle a été créée en 2024 pour le 35e anniversaire du parc par Julien Salvia et Ludovic Alexandre Vidal, qu'on connaît pour Tom Sawyer et le Tour du Monde en 80 jours, notamment, rien que ça. On y suit les aventures de Groupie du Pianix, qui veut devenir le plus grand barde de toute la Gaule, et de Sérotonine, qui veut devenir la première druidesse. Donc, 9 comédiens enchaînent les numéros chantés. On peut même voir des sangliers qui font des claquettes.
Oh,
oui, c'est à voir.
Et maintenant, appréciez le spectacle.
Mais c'est pas tout, parce que qui dit parc d'attractions dit famille. Oui. Et qui dit famille dit enfants qui hurlent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des chansons qu'ils auront mémorisées absolument par cœur. les chansons de la Reine des Neiges, on vous voit. Et oui, parce qu'il faut dire qu'en France, on a une vraie tradition.
Wow. Oh,
oh là 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 là.
Tradition des spectacles musicaux pour enfants et des spectacles musicaux familiaux. En ce moment, à Paris, on peut compter pas moins de 11 comédies musicales à haut budget destinées exclusivement aux enfants et au public, aux familles. Entre Le Chapoté, Madagascar ou encore L'Aventure d'Ulysse, on en voit partout. Donc, ce qui veut quand même dire que les comédies musicales attirent en France surtout des familles. On peut par exemple parler de Miraculous Ladybug, le spectacle musical.
Oui.
Ça raconte l'histoire de Marinette qui essaye de fêter son anniversaire avec des amis. Sauf que l'ombre de papillon s'abat sur eux.
Allez, Marinette.
Marinette.
Adrien, je voulais...
C'est un peu gênant.
Attends, je voulais t'inviter...
La fête des caprices de Chloé aura lieu ce soir au Palais Bourgeois.
Tu m'as déjà d'autres projets.
Comment est-ce que ça va se finir? Ça, c'est une question à laquelle la France entière demande une réponse. Et Élisée Ange, ne nous spoilez pas.
On dira rien.
S'il vous plaît.
Personne n'en parlera.
Tu sais, bouche cousue.
Je veux que la France reste tenue en haleine. Mais il ne faut tout de même pas oublier que les comédies musicales jeunes publics ont aussi donné naissance à des chansons devenues cultes, comme La Scène, chanson par M et Vanessa Paradis, tirée du dessin animé Un monstre à Paris. La Scène, c'est quand même une victoire de la musique ainsi qu'une place de 9e dans les écoutes françaises. Bref, c'est un succès qui surpasse de loin le jeune public. Enfin, tout ça pour dire que la comédie musicale française continue à se renouveler et à créer, et que le jeune public et les familles en sont une cible très privilégiée.
Merci Ilona pour cette comédie musicale gauloise.
Avec plaisir.
C'est une découverte complète.
Je peux rajouter une anecdote.
Vas-y.
Un des groupies du Pianix de cette comédie musicale a été chroniqueur ici à Radio Campus Paris.
Ah ouais,
ah ouais.
Dans une émission qui s'appelait Sortie de scène, je crois, sur le théâtre.
Ok. Voilà. Bon, on fera un coucou s'il écoute cette émission.
Thibaut, si tu nous écoutes.
Là où tu es, si tu nous écoutes. On a entendu un extrait de la comédie musicale C'est du délire. Ce que je me suis dit en premier lieu, c'est très cliché de la comédie musicale. Est-ce que les trucs pour enfants, c'est des trucs clichés, globalement? Est-ce que tu as poussé les recherches à ce point-là?
Bah, généralement, ça joue sur un peu des clichés en soi.
Des cordes un peu faciles, quoi, de comment
ouais,
on compose,
ça.
Etc.
Oui, bah, y a souvent des trucs très entraînants, par exemple. Il fut un temps très lointain, quand j'étais une jeune petite personne, parce qu'on sait que je suis extrêmement vieille maintenant. Il y avait la comédie musicale Scooby-Doo, avec une chanson dont le refrain c'était auto, O-T-T-O, deux consonnes et deux voyelles. Voilà.
Bah, ceci dit, c'est vrai. Hein.
C'est vrai. Mais c'était
mensonge.
Ça en boucle. Et la preuve, c'est que ça a fonctionné sur la petite personne que j'étais parce que je m'en souviens toujours. Donc je pense que c'est vraiment des choses qui m'ont marqué parce que c'était super basique et simple pour rentrer dans le cerveau des êtres que sont les enfants.
Mais c'est vrai que pour le coup, les spectacles musicaux pour enfants, il y en a vraiment énormément. T'as dit 11, c'est ça?
Alors, dans les recherches que j'ai faites, il y a 11 gros budgets.
11 gros budgets.
En comptant ceux de Disney?
Ah non, sans compter ceux de Disney.
Les trucs qui sont joués dans les théâtres dans Paris.
Ouais. Non, Disney, c'est très gros budget, je pense.
Ouais. Oui, bien sûr. Mais comment ça se fait que ce soit presque plus démocratisé que les comédies musicales pour adultes, finalement?
C'est peut-être l'influence de Disney en soi, parce que quand t'es jeune, tu regardes des Disney où ça chante et on te dit « Ah, un spectacle où ils chantent aussi !» Et tu te dis « Génial !» Et peut-être que t'as vu une pub n'importe où et tu t'es dit « Waouh, je veux trop aller voir la Pat' Patrouille
!» C'est la faute de la Reine des Neiges.
Ouais, et puis il n'y a peut-être pas cette espèce de petite honte qu'il peut y avoir. Je dis « J'emmène les enfants voir le spectacle qu'ils ont envie de voir. » Alors que dire « Moi, j'ai envie de voir un spectacle où ça chante, ça danse, ça joue. » Il reste ce petit truc de moins en moins, honnêtement, je pense. Mais quand même, il doit rester ce petit truc de se dire « C'est plus facile d'emmener les enfants voir une comédie musicale que d'aller voir soi-même une comédie musicale. »
Mais n'ayez pas honte, regardez, avec mon passe culture, Ange et moi, ça va aller voir Miraculous Ladybug.
C'est un très bon moment.
On s'est bien amusé.
Bon. Et la saison dernière, il y avait Denver, le dernier dinosaure. Et c'était vraiment un mix de petits qui découvraient et de grands qui étaient nostalgiques et qui venaient voir Denver en marionnette géante sur scène. C'était trop
mignon.
Bien.
C'était bien ce spectacle-là?
Ouais, c'était bien. Ouais. Et les chansons n'étaient pas trop nunuches.
Ok.
Ouais.
Eh bien, écoutez, si les producteurs nous écoutent, envoyez-nous un album, s'il vous plaît.
Les chansons étaient géniales, si vous nous écoutez.
On va faire une autre pause musicale. On va choisir un de tes choix, Julien. Est-ce que tu peux annoncer la musique qu'on va écouter?
Oui, bien sûr. On va écouter un des titres d'une des comédies musicales les plus sous-cotées qui soit, je trouve. La comédie musicale, c'est Ali Baba. Et la chanson, elle s'appelle « Nous sommes les 40 voleurs ».
Je suis le capitaine de cette bande.
Nous sommes ses fidèles.
Je vous les recommande avec une armée de gaillards comme ça.
Sur toute cette région.
Nous imposons la loi.
Sans morale.
Sans scrupule.
Aussi sans réfléchir.
Tout ce qu'on veut, c'est simple.
Simplement s'enrichir.
Et chaque jour un peu plus.
Amasser les trésors.
Alors écoutez-les bien. Voici mes conquistadors.
Nous sommes les 40 voleurs. À 40, on n'a pas peur de voler, de mentir, d'escroquer, de trahir.
J'ai la technique pour le racket.
Moi le fric frac, ça me déchaîne. Quand je veux, je peux avoir la haine.
Mon péché mignon, les cailloux de valeur.
Nous sommes de vrais démons.
Nous n'avons pas de cœur.
Et lui, c'est notre chef.
Ah, mauvaise ou tout rapport. Alors regardez-les bien. Voici mes conquistadors.
Nous sommes les 40 voleurs. À 40, on n'a pas peur de voler, de mentir, d'escroquer, de trahir.
Vous avez écouté « Nous sommes les 40 voleurs » de la comédie musicale Ali Baba de Radio Campus Paris.
Slime, un vendredi par mois à 19h sur Radio Campus Paris.
On est toujours avec Julien Baldacchino, nous parlons de comédie musicale française. Il y a un truc qu'on n'a pas abordé depuis le début, c'est la question du cinéma, parce qu'on a parlé que de théâtre depuis le départ. Et quand on parle de comédie musicale française au cinéma, on pense tout de suite à Jacques Demy, avec Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort ou même Peau d'Âne, qui ont été des films iconiques des années 60. Au cours de l'année dernière qui est passée, il y a eu quelques petites comédies musicales qui se sont faites. Il y a eu Joli Joli, Dans la cuisine des Nguyen et Partir un jour, qui ont été faites. Est-ce que voir des films comme ça donne un peu d'espoir pour le futur de la comédie musicale, que ce soit au cinéma ou même plus globalement dans, entre guillemets, l'acceptation de cette niche?
Alors, c'est moins mon rayon, les comédies musicales au cinéma, mais j'ai envie de dire pas trop. D'abord parce qu'ils ne sont pas présentés comme des comédies musicales d'un point de vue marketing, sauf peut-être dans La cuisine d'Nguyen, qui était annoncée comme une comédie musicale, mais qui a été plus confidentielle. Et Joli Joli, c'est presque une transposition de Jacques Demy. C'est-à-dire que en comédie musicale française, il y a Jacques Demy. Et puis, si vraiment vous êtes cinéphile, il y a Christophe Honoré. Mmh. Et puis voilà. Et donc, c'est un genre qui est encore plus niche, je trouve. Partir un jour, ça se base sur des chansons de variété qui sont réarrangées, réorchestrées. Moi, j'ai adoré ce film, mais... Et je trouve que c'est une excellente comédie musicale, justement, au sens de comédie et musique. Mais est-ce que ça suffit pour au cinéma redonner un peu des lettres de noblesse au genre, quand on voit qu'aux États-Unis ils cachent le côté comédie musicale de certains films aussi pour ne pas dissuader le public, je me dis que non, ça va pas être facile.
C'est vrai qu'il y a eu plein de vidéos qu'on a vues à la sortie de Mean Girls, par exemple l'année dernière, ou même de Wicked aussi, des gens qui savaient pas que Wicked était une comédie musicale, et donc des gens qui filmaient leur séance avec des « Oh non, purée, c'est horrible la comédie musicale !» Ange ?
Ouais, moi j'allais rebondir là-dessus aussi. J'en parlais avec justement un de mes collègues au travail qui me dit qu'il est absolument fan d'Ariana Grande et qu'il est allé voir Wicked tout sourire et qu'il est parti en plein milieu de la séance en comprenant que c'était une comédie musicale. Et j'ai trouvé ça terriblement triste, mais en même temps, est-ce qu'on peut blâmer les gens de ne pas savoir que c'est une comédie musicale quand c'est pas annoncé finalement ? Et c'est un peu triste de pas vouloir assumer cette facette qui est quand même hyper intéressante, hyper artistique, hyper créative et hyper marquée surtout.
Ouais, mais je pense effectivement d'un point de vue, mais alors c'est du marketing pur et dur. Ils doivent faire des études et se rendre compte que comme c'est plus clivant, le nombre de gens qui vont quitter la salle va être plus faible que le nombre de gens qui vont finalement rester. Peut-être même que certains vont aimer et du coup on profite de ça. Mais ouais, non, c'est assez fou de se dire que certains films musicaux, voire basés sur des comédies musicales, sont pas vendus comme des comédies musicales.
Ah ouais.
Il y a un dernier point qu'on va aborder, c'est le fait que, en ce moment, il y a plein de comédies musicales, depuis la rentrée, même depuis un ou deux ans, qui envahissent Paris. Le mot, le verbe n'est pas le meilleur. Je crie ma couverture. Non, mais donc en pro, mais aussi, on a vu au cours des dernières années plein d'associations de comédies musicales qui se sont créées, qui ont pour but soit de jouer des spectacles dont ils sont fans, mais qui n'ont pas vocation à être pro. Qu'est-ce que ça annonce, ça, pour l'avenir de, entre guillemets, l'acceptation de la comédie musicale ?
Ça, alors...
Est-ce que c'est encourageant, au moins ?
C'est encourageant. Je pense que ça reste une niche. Mais au moins, ça fait grossir cette niche. Je vais dire un truc tout bête. J'étais dans une soirée de comédie musicale il y a quelques semaines, dans laquelle certains d'entre vous étaient également. ça fait du bien de se dire je suis pas un nerd tout seul dans mon coin, et de se dire qu'il y a d'autres gens qui aiment ça, qu'on n'aime pas tous les mêmes choses. C'est-à-dire que moi, l'intégralité des titres de comédie musicale américaine que j'ai entendus ce soir-là, je ne les connaissais pas parce que c'est pas ma culture à la base. Mais j'ai découvert plein de choses, et de se dire que on peut finalement aller voir des comédies musicales qui sont faites par des passionnés à des prix abordables par ailleurs, parce que c'est souvent moins cher d'aller voir une comédie musicale amateur et pas forcément moins bon. Oui, ça peut créer quelque chose, et je pense que ça incite aussi à la création, ça invite aussi à s'y mettre, à se dire j'ai peut-être envie de chanter, de danser, de jouer du théâtre. Il y a des écoles de comédie musicale, mais ça c'est encore autre chose. Et en France, le milieu des écoles de comédie musicale, c'est aussi un sujet de débat à mon avis à part entière. Mais ouais, ça peut faire vivre, exister ce milieu-là.
Et merci beaucoup pour ces réponses. On va finir l'émission ici. Donc c'est la fin de l'émission de Slime. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre vos bouteilles vides à la poubelle, ce serait très sympa pour les employés. Avant de se quitter, Julien, toi aussi, tu as une comédie musicale qui s'appelle Radio Michel.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, c'est une comédie musicale. Alors, c'est du théâtre musical, c'est un spectacle musical. Comédie musicale, c'est peut-être un peu too much, parce qu'on n'a pas de danse, justement. On a de la chorégraphie, de la mise en scène. C'est l'histoire d'une radio qui ne diffuse que des Michel. Donc Michel Delpech, Michel Fugain, Michel Thor, Michel Berger. Dans un monde où plus personne ne s'appelle Michel et qui doit survivre dans ce monde où plus personne ne s'appelle Michel, et on suit les aventures de l'équipe de la radio qui va essayer de trouver la solution pour ne pas se faire racheter par Radio François. C'est un spectacle avec des musiciens et musiciennes live sur scène. Il y a 7 comédiens et comédiennes qui jouent le spectacle, et on est une fois par mois dans un théâtre qui s'appelle la Scène Parisienne à Paris, le dernier mardi de chaque mois.
À 21h30 exactement.
Exactement.
C'est ça, la promo est bien réglée. Merci beaucoup, Julien, d'avoir accepté notre invitation.
Merci pour cette invitation.
On retrouve aussi ton podcast, Les Rois du Monde et Stone.
Ouais, sur, on va pas faire le nom en entier, mais
ouais,
c'est,
non,
ça suffit.
Etc. Merci Ange.
Merci Gauthier.
Merci Élise.
Merci.
Merci Ilona pour ta première en tant que...
Bravo.
Merci à Delila à la technique, et un grand merci à vous, chers auditeuristes, de nous avoir écoutés. En attendant, dansez, chantez, surtout si en français, parce que c'est quand même très sympa comme ça. Salut.